bonjour à tous. Aujourd'hui, on manipule des concepts et on échafaude des théories.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
On ne compte plus les économistes qui ne jurent que par le capital humain, un concept développé dans les années 60 par le prix Nobel américain Gary Becker. Derrière cette notion savante se cache l'idée selon laquelle une population éduquée et en bonne santé serait le moteur le plus efficace de la croissance et du développement. Ainsi, chaque individu est incité à investir dans son propre capital humain pour améliorer sa productivité. Une vision contestée que nous allons tenter de saisir dans toute sa complexité. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure capitale d'Entendez-vous l'écho. Le capital humain est-il au service de la croissance ? Nous allons poser la question à Özgür Gün, maître de conférence en économie à l'université de Reims, et à Jos Roussel, professeur à la Paris School of Business et co-auteur d'un ouvrage consacré au capital humain. En fin d'émission, on retrouvera Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Özgür Gün et Jos Roussel.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Alors, est-ce que vous diriez que cette notion de capital humain n'a jamais été aussi à la mode, à la fois parmi les économistes et au sein des organisations internationales comme l'ONU ou la Banque mondiale, Jos Roussel ?
Alors effectivement, c'est une notion qu'on peut qualifier de à la mode, en ce sens qu'elle est utilisée aujourd'hui de manière très fréquente dans le cercle des économistes, mais pas seulement, également dans le monde de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui une compagnie d'assurance qui fait la promotion d'une assurance du capital humain pour le compte de clients entreprises. Donc, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est est-ce que véritablement le concept qui est sous-jacent est solide, est-ce qu'il est capable de nous éclairer sur finalement l'intérêt d'une croissance du capital humain ou l'intérêt également du capital humain pour la croissance, par exemple.
En tout cas, c'est un concept qu'on utilise beaucoup dans le cadre du développement, Özgür Gün. La Banque mondiale dit vouloir investir près de 15 milliards de dollars dans le capital humain en Afrique. Qu'est-ce que vous inspire cette notion ?
La notion en elle-même et son usage, en l'occurrence dans votre question, par la Banque mondiale, a de quoi surprendre, parce que la Banque mondiale quand même a été en tête en termes de préconisation, de forme de démantèlement, de protection sociale, de services publics dans des pays en développement, même si ces services étaient naissants, et qui concouraient justement à la bonne santé et à l'éducation de la population. Alors qu'aujourd'hui, en passant par le concept de capital humain, que la Banque mondiale redécouvre l'importance d'une population en bonne santé pour qu'elle soit productive, ou éduquée pour qu'elle soit productive, pourquoi pas ? Mais bon, on peut aussi interroger, ce qu'on fera j'espère, les liens entre l'enseignement, l'éducation et la productivité, bien sûr.
C'est en tout cas une théorie qui est de plus en plus mobilisée, alors peut-être à tort ou à raison, mais on a vu cette année le prix Nobel d'économie décerné à Esther Duflo pour qui la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par des investissements en capital humain. Alors avant de définir bien sûr ce que c'est que le capital humain, est-ce qu'on pourrait dire, Özgür Gün, que finalement c'est un concept qui finalement est adapté à toutes les sauces et perd un petit peu en force.
Et en même temps, ça fait partie, et ça va être le cas de le dire, j'espère le montrer, de l'ADN du concept de capital humain, d'attraper à peu près tout et n'importe quoi. Une certaine plasticité du concept qui autorise des usages, pas seulement jargonneux, mais aussi que ce soit technocratique ou alors dans le champ, on va dire, scientifique en économie. Différents usages, en effet, oui, différents usages. Voilà, on en a un exemple à l'heure actuelle, dans l'actualité des organisations internationales ou les questions de développement, mais à travers le concept de capital humain, c'est une manière de peut-être de redécouvrir la Lune, je ne sais pas, mais voilà.
C'est en tout cas un concept qui a été inventé par l'économiste Theodor Schultz à la fin des années 50. Quelle définition est-ce qu'il en propose, Jos Roussel ?
En fait, il définit le capital humain comme finalement l'investissement en éducation qu'une personne peut réaliser, mais également l'investissement en éducation qui peut être réalisé par des institutions publiques, par exemple le système d'enseignement, voire des entreprises lorsqu'elles forment leurs collaborateurs. Donc en fait, il fait référence à toute formation, donc au pluriel, qu'elle soit portée par le système public, par l'entreprise, et également des formations que un individu peut réaliser pour améliorer son stock de connaissances et de savoir-faire. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est que grâce à cette accumulation de connaissances et de savoir-faire, la personne va pouvoir obtenir sur le marché du travail de meilleures rémunérations et de réduire son risque de chômage.
L'objectif de Schulz au départ, c'était de trouver le moyen de rendre les agriculteurs plus productifs.
C'est ça. Donc, augmenter la productivité agricole par la formation de la population, des agriculteurs mieux formés, plus productifs. Je dirais que c'est le point de départ de ce champ sur le capital humain, le lien capital humain-productivité.
Schulz a été l'inventeur du concept, mais c'est l'économiste Gary Becker qui va le pousser un peu plus loin. Et je vous propose d'écouter un extrait du discours qu'il a prononcé lorsqu'il a reçu le prix Nobel d'économie. C'était en 1992.
Jusque dans les années 1950, les économistes supposaient généralement que la force de travail était donnée et impossible à augmenter. Les analyses sophistiquées des investissements en éducation et autres formations dues à Adam Smith, Alfred Marshall et Milton Friedman n'étaient pas intégrées dans les discussions sur la productivité. L'analyse du capital humain débute avec l'hypothèse que les individus décident de leur éducation, de leur formation, de leurs soins médicaux et de tout supplément de connaissances et de santé en pesant les avantages et les coûts. Aujourd'hui, le capital humain est tellement peu controversé qu'il peut paraître difficile de comprendre l'hostilité qui existait envers cette approche dans les années 50 et 60. On prétendait que le concept même de capital humain était avilissant, parce qu'il traitait les hommes comme des machines. Aborder l'éducation en tant qu'investissement plutôt qu'en tant qu'expérience culturelle était considéré comme caractéristique d'un comportement insensible et d'une vision extrêmement étroite. C'est seulement progressivement que les économistes ont accepté le concept de capital humain comme un outil valable pour l'analyse des divers problèmes économiques et sociaux.
Özgür Gün, que vous inspire ce discours de Gary Becker et cette idée que la productivité est intimement liée au degré de qualification des travailleurs ?
Écoutez, ça a l'air d'être un truisme, mais empiriquement, on attend toujours des preuves claires d'une corrélation positive entre la formation, l'éducation et la productivité, si tant est qu'on puisse mesurer la productivité du travail de celui qui se forme et qui accumule ce stock qu'est ce qu'on appelle le capital humain. Donc on attend toujours une preuve empirique de cela.
Il y a des modèles mathématiques qui établissent que, par exemple, il y a une hausse de la productivité de 1% pour les salariés qui ont des formations dans le cadre de l'entreprise de l'ordre de 11%. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de modèle mathématique ?
Alors, le modèle, il faut regarder, mais après, ce qui est intéressant, c'est les prédictions du modèle qui sont véritablement testées. Il y a souvent un hiatus entre ce qui est dit dans le modèle, en termes de discours théorique, et ce qui est testé en réalité. Par exemple, prenons la productivité. Ça ne se mesure pas la productivité marginale. Et une des hypothèses, on ne peut pas mesurer la productivité marginale d'un travailleur, ça a guère de sens. Une des hypothèses, ça consiste à dire qu'on prend comme proxy, comme indicateur de productivité, le salaire. Est-ce qu'à un moment, on va finir par tourner en rond. D'ailleurs, on tourne en rond. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des études empiriques, à ma connaissance, qui font lien entre la formation, l'éducation et donc la rémunération, le salaire, passent par un enchaînement causal qui va d'éducation à productivité, de productivité au salaire. Il y a pas mal d'hypothèses qui sont en jeu ici. Et une des hypothèses, c'est que, par exemple, le salaire serait fixé à la hauteur de la productivité marginale du travailleur, en sachant que le concept de capital humain met en scène un stock. Donc l'éducation augmenterait le stock de capital humain.
Ce qui permettrait d'augmenter sa productivité et donc son salaire. Ça, c'est le raisonnement de Gary Becker.
Tous ces enchaînements causaux sont en cause dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas apparaître. Et donc ce qui est testé, c'est un proxy, c'est le nombre d'années d'études et le salaire. On peut trouver une corrélation, en effet. Au-delà, tirer une causalité, c'est encore autre chose.
On va faire réagir Joss Roussel sur cette causalité. Est-ce qu'elle existe ou non entre le niveau de qualification, la productivité et donc la hausse du salaire ?
Alors, je pense qu'on peut mettre effectivement en évidence une certaine relation, une certaine causalité. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études empiriques qui sont contestables de par, je dirais, par exemple, la façon dont on va mesurer le capital humain et son impact. Mais je dirais que si on s'interroge, par exemple, sur le rôle de l'innovation au sein de l'entreprise, et puis au niveau macroéconomique pour la croissance, eh bien, c'est vrai que le moteur de l'innovation, c'est quand même le capital humain. Parce que pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait des innovateurs, il faut qu'il y ait des personnes qui soient en mesure de mettre des idées nouvelles sur la table et de les transformer, d'en créer des applications intéressantes. Et comment est-ce que c'est possible? Bien, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont bien formées, très bien formées, qui ont su développer un talent, des capacités de très haut niveau. Donc l'innovation comme moteur de la croissance nécessite un capital humain, un stock de capital humain de haut niveau. Et donc, à partir du moment où des sociétés s'engagent dans une politique d'innovation, quand je dis des sociétés, c'est au sens macroéconomique, des nations qui veulent produire plus de croissance par l'innovation, eh bien, il faut bien entendu disposer de personnes qualifiées, de personnes dotées d'un capital humain de haut niveau.
On va revenir sur l'innovation, mais restons encore un peu sur l'apport de Gary Becker à cette notion de capital humain. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il explique ce qui fait qu'un individu décide de prolonger ses études ou non, c'est-à-dire que l'individu va faire un calcul.
Alors effectivement, parce qu'on est dans une démarche qui est celle d'un économiste, et Gary Becker a été, entre guillemets, mes pionniers pour apporter, je dirais, un regard d'économiste sur des problématiques qui souvent étaient plutôt analysées par d'autres sciences sociales, la sociologie par exemple, puisqu'il le fait bien sûr pour la formation avec le capital humain, mais il l'a fait après aussi pour l'analyse de la criminalité, voire pour l'analyse y compris de la nuptialité, pourquoi est-ce que les gens ne se marient ou ne se marient pas. Et donc dans cet ordre d'idées, il apporte cette démarche qui est celle de l'économiste, qui consiste à prendre comme hypothèse que les individus font un calcul coût-bénéfice entre les bénéfices attendus d'un investissement en formation et le coût qui est porté par les personnes qui s'engagent dans une formation. Alors, sachant qu'il est intéressant de noter que, de son point de vue, le coût, c'est pas simplement le coût monétaire, c'est-à-dire on va, par exemple, dépenser de l'argent pour se former, mais c'est surtout ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire le fait de renoncer.
Le manque à gagner s'il avait travaillé à la place de faire des études.
Et de ce point de vue, il montre bien que plus on avance dans les études, entre guillemets, plus le gain attendu d'une année supplémentaire est relativement faible, parce que on accumule de plus en plus de capital humain, on est de mieux en mieux formé, et donc poursuivre une année supplémentaire d'études, ça va apporter, je dirais, un peu moins de rendement. Et je dirais que ça s'inscrit d'une manière générale dans une thématique qui est celle des actifs immatériels, parce qu'on parle de capital humain, mais il y a aussi d'autres recherches, je dirais, sur des, par exemple, le capital informatique ou d'autres types de capitaux.
Alors, n'allons pas trop vite en besogne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qu'il faut voir ici, c'est est-ce que c'est au rôle, est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est à l'individu, est-ce que c'est à l'entreprise d'investir dans le capital humain. Par exemple, ce que dit Becker, c'est que les classes de CP et CE1 sont tellement importantes pour le développement du capital humain des enfants que c'est à l'État de prendre en charge l'éducation primaire aux Gourgunes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, enfin, il dit cela, mais après, il montre aussi des effets pervers de la politique publique de soutien à l'éducation. Parce que j'aimerais quand même, pour éclaircir mon propos, dire quelques mots tout de même sur la démarche de Becker, qui, de mon point de vue, ne caractérise pas la démarche des économistes, mais une certaine forme, une certaine approche de l'économie. Becker s'en cache pas, il a été nobelisé entre guillemets pour ça, puisque ça s'appelle l'impérialisme économique, c'est une démarche qui consiste à appliquer l'analyse microéconomique de base, un peu revisitée, j'en dirais quelques mots, à toutes les sphères sociales, donc une espèce de calcul coût-avantage généralisé. Donc toutes les décisions, tous les comportements seraient redevables d'un tel calcul coût-avantage. Je vous passe ces hypothèses baroques qu'il faut faire pour réussir à penser à un tel calcul coût-avantage. Par exemple sur, tiens, est-ce que je vais poursuivre mes études ou pas? Ça demande des hypothèses formelles assez ahurissantes pour que ça ait un sens. Mais ce sur quoi je voudrais insister à propos du capital humain, au-delà de la définition, parce que la définition était quand même un peu vague chez Becker tout de même, c'est des capacités productives mais qui sont dues à l'accumulation de savoir et de savoir-faire, etc. Nous écrit-il de etc. et de Becker. Bon, très bien, donc chaque individu est responsable de son capital humain au sens où il investit dans son capital humain et cet investissement est basé sur un calcul coût-avantage. Il reste à expliquer, tiens, puisque L'hypothèse étant que, évidemment, plus votre capital humain augmente, plus vous êtes productif et donc plus vous touchez de salaire. Alors on peut se demander, mais tiens, mais pourquoi tout le monde ne pousse pas les études jusqu'à des fins, jusqu'au bout, quoi, hein, une thèse, un bac plus je ne sais pas combien, polytechnique, en malsup, pourquoi pas? Tiens, pourquoi tout le monde ne fait pas ça si tout le monde est rationnel d'après l'impérialisme économique? La raison est simple, c'est que pour que ce programme ait un sens, ce calcul coût-avantage, il faut que ça coûte. C'est un problème de maximisation, il faut une contrainte. La contrainte ne peut pas être dans les prix. Au sens où, pour Baker, c'est l'impérialisme économique, les prix sont les mêmes. Les prix des biens marchands sont les mêmes pour tous. On est à l'équilibre en permanence. Les prix sont les mêmes pour tous. Donc, ça ne peut pas être les prix. Ça ne peut pas être non plus, ce qui peut expliquer la différence d'investissement, je ne sais pas, les conditions matérielles d'existence, ou le capital, comme dirait Bourdieu, culturel, je ne sais pas, symbolique, social, ça ne peut pas être ça. Parce que ça contrevient à l'individualisme méthodologique. Donc, que reste-t-il? Il reste finalement l'individu lui-même. Je vais m'expliquer. Alors, en grattant un petit peu, et pas très longtemps dans ces différents travaux, hein, on voit apparaître une notion, c'est celle de capacité intellectuelle pour ce qui est du capital humain.
Donc ça pousse la notion de mérite assez loin, c'est ça que vous voulez dire?
Très très loin, je m'explique. Plus vous avez des capacités intellectuelles limitées, plus ça va vous coûter de poursuivre vos études. En termes de coûts d'opportunité, bien sûr, mais aussi en termes de coûts tout court, hein, entre les études, parce que vous êtes besogneux, hein, vous n'y arrivez pas, donc vous prenez du temps. En revanche, plus vous avez des capacités intellectuelles développées, moins ça vous coûte, bien entendu.
Et ça soulève une question
importante. C'est l'argument déterminant à la fin du fin chez Baker.
Ça soulève la question de la responsabilité individuelle. À ce propos, je souhaite vous faire écouter une archive et on en discute juste après.
La première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux.
Elle a quand même
ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi.
Bien payé.
Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'empiler les difficultés.
Voilà, c'était la chroniqueuse Julie Gradiani sur le plateau de LCI. Elle réagissait aux propos d'une femme qui se disait donc au SMIC, divorcée avec deux enfants et qui disait qu'elle avait du mal à s'en sortir. Elle était face à Emmanuel Macron. Alors c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces propos traduisent selon vous, Joss Roussel?
C'est peut-être effectivement une vision trop économiste des choses, pour le coup, comme on l'a évoqué, parce que ça met en évidence sans doute le fait que cette notion de capital humain ou de cette notion de responsabilité individuelle qui est associée hein, à la démarche qui consiste à dire on investit dans le capital humain ou on n'investit pas en fonction d'un certain nombre de critères, ben, cette notion finalement elle se répand dans l'ensemble des discours ambiants, puisque là c'est une chroniqueuse qui réagit à un témoignage et qui va finalement plaquer sur ce témoignage une grille de lecture qui est celle du coût-bénéfice d'une certaine façon. Alors évidemment, cette grille de lecture peut être pertinente dans certains cas, mais elle
vous en critiquez la systématisation.
Voilà, la systématisation, ce qui consiste à dire finalement que tout événement dans la vie d'une personne peut être réductible à un calcul coût-bénéfice. Alors ça, c'est évidemment quelque chose d'absurde parce que il y a des singularités dans l'existence. On ne peut pas tout maîtriser. Et par ailleurs, comme vous l'indiquiez, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites pour mettre en avant la notion de capital humain qu'on ne peut pas, si vous voulez, concrétiser dans la vraie vie, en quelque sorte.
Dans quel sens?
Dans le sens, par exemple, de l'incertitude. C'est vrai que la démarche des économistes comme Baker et de ceux qui ont poursuivi ces travaux repose sur quand même une hypothèse qui consiste à dire qu'on dispose d'une information quasi parfaite. Et donc à partir du moment où on accepte cette hypothèse, effectivement, on est capable de percevoir l'ensemble des conséquences que va apporter tel ou tel choix. Or, dans les faits, on est dans une incertitude radicale. Et donc, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas percevoir. Et donc, des actions que l'on va entreprendre aujourd'hui, on le fait sans être capable de mesurer pleinement les conséquences.
Donc, ce que l'on comprend bien, c'est que ce capital humain, c'est peut-être un modèle théorique qu'il faudrait prendre avec précaution. Osgurgun, il nous donne des informations, mais on ne peut pas réduire notre analyse à cette vision.
Mon collègue, je ne dirais pas adversaire, l'a rappelé, ce que j'avais signalé, c'est le caractère baroque de nombreuses hypothèses formelles qui rendent inimaginable théoriquement, ces calculs coûts-avantages généralisés, puisqu'encore une fois, la démarche de Becker est de généraliser ces calculs coûts-avantages à tout et n'importe quoi. À tout et n'importe quoi. Oui, prendre avec précaution ce type de calcul, ce type de démarche, on va dire, méthodologique, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que très longtemps, Becker faisait rire dans le champ universitaire, dans le champ de la recherche en économie. Quand il a publié ses premiers travaux, je pense à un article en 1974 dans le Journal of Political Economy sur la théorie des interactions sociales, un autre article avait été publié au même moment qui se moquait de l'article précédent de Becker en montrant les potentialités incroyables de cette analyse. On pourrait, c'était Blinder, on pourrait proposer une analyse du brossage de dents ou du coiffage de cheveux sur le mode coût-avantage.
Alors, ce qui est vrai, c'est que Becker va rationaliser toutes les décisions que l'on prend dans la vie, comme vous le disiez, Joas Roussel, le fait de se marier ou non, le fait d'avoir des enfants ou non.
De commettre un crime.
De commettre un crime.
Et d'ailleurs, il s'est même vanté d'avoir sa théorie ait produit un effet de théorie en influençant dans différents états les systèmes de peine et de sanctions sur la base du calcul coût-avantage.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, là, par exemple, c'est le discours que l'on vient d'entendre, c'est par exemple aussi la pression très importante qui va peser sur les individus dès leur plus jeune âge.
Et en effet, la sortie de l'éditorialiste de LCI qui a défrayé la chronique en témoigne. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, je pense que le fond intellectuel, normatif, idéologique, philosophique de la démarche de Gary Becker, en l'occurrence avec le capital humain, c'est quelque chose qui se retrouve depuis très longtemps dans l'histoire. C'est pas une nouveauté. Moi, je sais pas que Victor Duruy, ministre du Second Empire de l'éducation, enfin de l'instruction civique à l'époque, fasse un lien entre éducation dans un contexte de concurrence internationale et productivité, bon, c'est une vieille idée. Et encore une fois, le fait qu'on rende responsable de leur situation les pauvres, les miséreux, c'est quand même un lieu commun de la pensée réactionnaire, comme disait Hirschman, depuis le début du capitalisme. Il y a rien de nouveau.
C'est une théorie ancienne, dites-vous, et justement, on peut se demander si les prémices du capital humain se trouvaient déjà chez Adam Smith, dans cet extrait de son ouvrage le plus célèbre, La richesse des nations, paru en 1776. Il parle justement de ce lien entre éducation et productivité.
Dans tout autre art et manufacture, les effets de la division du travail sont les mêmes que ceux que nous venons d'observer dans la fabrique d'une épingle. Quoiqu'en un grand nombre, le travail ne puisse pas être aussi subdivisé, ni réduit à des opérations d'une aussi grande simplicité. Toutefois, dans chaque art, la division du travail, aussi loin qu'elle peut y être portée, donne lieu à un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. C'est cet avantage qui paraît avoir donné naissance à la séparation des divers emplois et métiers. Aussi, cette séparation est en général poussée plus loin dans les pays qui jouissent du plus haut degré de perfectionnement. Ce qui, dans une société encore un peu grossière, est l'ouvrage d'un seul homme, devient dans une société plus avancée la besogne de plusieurs. Que de métiers différents sont employés dans chaque branche des ouvrages manufacturés, de toile ou de laine, depuis l'ouvrier qui travaille à faire croître le lin et la laine, jusqu'à celui qui est employé à blanchir et à lisser la toile, ou à teindre et à lustrer le drap.
Joas Roussel, Adam Smith est le premier à dire que l'éducation, la formation permettent d'augmenter la productivité des travailleurs.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans ce passage que nous avons entendu l'idée fondamentale que la division du travail permet le gain de productivité dont on parle, c'est-à-dire
grâce à une spécialisation.
Grâce à une spécialisation et notamment grâce à une spécialisation qui permet d'employer des personnes peu qualifiées. Parce que c'est ça qui est fondamental, parce qu'on passe d'une société qui est une société basée sur l'artisanat, et l'artisan c'est quelqu'un qui justement, en quelque sorte, maîtrise l'ensemble du process productif, qui conçoit, fabrique et commercialise, par exemple, des chaussures, des draps, etc. Donc l'artisan est quelqu'un de très très qualifié. Et le paradoxe par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que la révolution industrielle, dont Adam Smith finalement est un témoin, je dirais, un peu ébahi, va casser ce modèle productif, reposant sur l'artisanat, pour finalement permettre à des personnes très peu qualifiées, de travailler avec un système productif finalement extrêmement efficace.
Et donc permettre à plus de monde de travailler.
Permettre à plus de monde de travailler, mais finalement en permettant à des personnes très peu qualifiées de réaliser un petit morceau de travail sur un processus de production qui lui a été éclaté. Plutôt que d'avoir une seule personne en charge de l'ensemble du processus productif, on va avoir plusieurs personnes beaucoup moins qualifiées capables de produire la même chose plus vite, avec une mécanisation qui apparaît. Et je dirais c'est seulement plus tard, finalement, qu'on s'aperçoit que lorsqu'on épuise les économies réalisées par cette première révolution industrielle, il va falloir en quelque sorte monter en gamme et on va devoir faire appel à des ouvriers, par exemple, plus qualifiés, à des contremaîtres plus performants. Il va falloir peut-être réorganiser les processus productifs. Et donc là, c'est vrai que la qualification va devoir va être nécessaire, va être indispensable.
Avec
mais ce qui n'était pas le cas dès le départ, en fait.
Et avec la question qui va avec, qui est jusqu'où cette montée en qualification peut aller, Özgür Gün, qu'est-ce que vous pensez de ce texte ?
Une partie des propos de mon collègue sont rentrés dans mes oreilles comme des tartines de miel. au sens où, en effet, ce qui est en jeu à travers cet extrait, c'est l'organisation du travail. Je répète, l'organisation du travail. Ce qui montre au passage quelque chose qui est toujours à l'œuvre et... Les slogans à base d'économie du savoir n'y changeront rien de mon point de vue, à savoir que la productivité globale, la productivité est une affaire d'organisation du travail. La mécanisation dont vous parliez, dont parle Adam Smith, globalement, elle est toujours à l'œuvre. Elle est toujours à l'œuvre. Et c'est pour cette raison que le lien entre la formation, l'éducation et la productivité est très très loin d'être établi. Bien au contraire, la mécanisation aidant, le niveau de connaissance, de compétences requises, par exemple, pour aller chercher des commandes de chez Amazon, bientôt remplacées par des robots, est de plus en plus limité. Le nombre de... Les bullshit jobs, comme disait l'autre, qui explosent dans les sociétés
Graeber.
Développées, Monsieur David Graeber, dans les sociétés développées, dans les économies riches, signale du fait que dans ces emplois de service, le niveau de qualification requis, en rapport avec une division du travail, une organisation du travail de plus en plus rationnelle, est de moins en moins élevée. Et c'est des choses signalées déjà par, je ne sais pas, des films, Le Temps moderne, et par Marx, s'appelle L'aliénation au travail.
Joss Roussel.
Oui, alors effectivement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, on a un phénomène qui est très, très surprenant, parce qu'on a aujourd'hui à la fois le phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire avec l'automatisation, l'essor de l'intelligence artificielle qui est là tout près, dans les métiers de service, finalement des emplois qui requièrent très très peu de qualifications. Vous avez donné l'exemple des personnes chez Amazon, mais en même temps, on a aussi d'autres emplois qui, eux, vont nécessiter de plus en plus de qualifications.
La fameuse polarisation du marché du travail.
Exactement, on a une polarisation qui est de plus en plus forte et qui, évidemment, est gênante du point de vue, par exemple, de la répartition des revenus. Parce que cette polarisation va entraîner un accroissement, je dirais, des inégalités en termes de rémunération. Parce qu'on voit très bien que les personnes dotées d'un capital humain, d'une expertise très recherchée sur le marché du travail, vont être très très bien rémunérées. Alors que les personnes, par exemple, qui finalement occupent des emplois de service peu qualifiés, peu rémunérés, sont dans une situation qui est de plus en plus précaire.
Cela remet en question l'idée que l'éducation peut permettre d'augmenter en tout cas son pouvoir d'achat, son salaire, et plus largement permettre de relancer la croissance. On continue à en parler dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny.
To make you as I wish. Oh, time, do as I wish.
Spend the day in bed, j'ai passé la journée au lit, voilà ce que chante Morrissey, qui n'investit peut-être pas assez dans son capital humain. Osgourgun et Joss Roussel sont toujours avec nous pour parler du rôle de l'éducation dans la croissance et le développement. Alors là, il va peut-être falloir faire un détour par les travaux de Robert Solow. Qu'est-ce que nous apprend son modèle, Joss Roussel, sur les liens entre développement du capital humain et croissance économique?
Alors c'est vrai que Solow n'introduit pas la notion de capital humain en tant que tel. Lui, il est plutôt sur une vision un peu plus classique qui met en avant comme moteur de la croissance le capital physique et gérer la population. C'est-à-dire que dans sa vision des choses, l'autre facteur de production, c'est bien entendu le travail. Mais le travail, c'est le nombre, la population active, pour faire simple. Et donc, en gros, il nous dit, hein, si je caricature, pour qu'une économie puisse se développer, il y a deux facteurs qui sont, entre guillemets, exogènes au modèle. C'est le stock de capital physique et le stock de travail mesuré par la population active. Et donc c'est par la suite, bon, Romer notamment
va compléter les travaux de Solow.
Voilà,
parce que Schulz aussi.
Et Schulz dès le début avec la notion de capital humain, en disant que le travail, c'est pas simplement la population active, c'est aussi les qualifications que maîtrise cette population active. Donc qualifications évidemment très très diverses. Et donc c'est par ce biais, en fait, le capital humain, il entre dans la croissance économique, comme moteur de la, enfin comme entre guillemets facteur explicatif de la croissance économique, en prenant comme cadre de référence, je dirais, les travaux de Solow, et en remettant en question la définition de cette force de travail, de ce facteur productif qui est le travail.
Et c'est dans ce contexte que apparaît la théorie de la croissance endogène, avec l'idée que les infrastructures de l'État, le capital humain et le progrès technique accélèrent la croissance, Osgourgun.
Oui, tout à fait. Mais j'aimerais revenir quand même rapidement sur le modèle de Solow. Mon collègue a signalé un point qui me semble très important. Mais j'aimerais ajouter que ce modèle est tout entier construit sur une fonction, ce qu'on appelle la fonction de production agrégée. Par définition d'une fonction de production, il est question de mettre en relation des quantités physiques de facteurs de production, capital, travail, dans le modèle de Solow, et ce qui est produit, qu'on appelle le produit. Bien, des quantités physiques, j'insiste, on est en macroéconomie là. Donc on a vocation à parler de l'ensemble de l'économie. La fonction de production agrégée prétend parler de l'ensemble de l'économie.
Alors qu'est-ce qu'elle exclut selon vous ?
Eh bien, étant donné la définition de la fonction, tous les modèles qui utilisent une fonction de production agrégée, c'est comme le modèle de Solow, le modèle de Romer pour la croissance endogène, bref, tous les modèles basés sur la fonction de production agrégée, sont contraints de supposer des économies à un seul bien. Parce qu'on ne peut pas agréger des biens différents en une quantité physique susceptible d'intégrer la fonction de production. Et donc des économies à un seul bien, ça signifie que dans le modèle de Solow par exemple, qui lui a valu un prix Nobel aussi, il y a un seul bien dans l'économie, c'est le blé, qui est à la fois consommé, investi, donc épargné parce que c'est supposé être égal, investissement épargne, parce qu'il y a toujours plein d'emplois des ressources par hypothèse, et qui sert aussi de produit. Donc c'est un modèle qui considère, qui est là pour simuler.
Et donc vous voulez dire que c'est un modèle qui n'est pas généralisable ?
Un modèle qui n'a aucune portée empirique. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on essaye de montrer que grâce à une seule fonction, avec certaines hypothèses, on arrive à montrer qu'il y a de la croissance. Alors le modèle n'arrive même pas à montrer qu'il y a de la croissance par tête. Il n'arrive pas à simuler le fait que la production augmente plus que la population. Et pour une raison simple, parce qu'il y a une hypothèse derrière, c'est ce qu'on appelle les rendements d'échelle. C'est un peu technique, mais ça signifie que la production ne peut pas augmenter. Plus, elle n'augmente que proportionnellement à l'augmentation des facteurs de production, capital et travail, qui dans le modèle ne sont qu'une affaire de blé, je rappelle, que de blé. Et donc, Schulz intervient, puisque Schulz et d'autres interviennent dans la mesure où le modèle de croissance néoclassique, dit le modèle de Solow, ne parvient pas à expliquer la réalité, à savoir, enfin, à rendre compte, à simuler la réalité, à savoir qu'on observe, en termes de croissance, une augmentation de la production supérieure à l'augmentation de la population. Ça s'appelle la croissance par tête. Il y a de la croissance
par
tête.
D'où le fait d'ajouter cette idée de capital humain, mais on peut prendre un autre exemple très concret, qui est par exemple les technologies de l'information et de la communication, qui constituent pour certains économistes une grappe d'innovation au sens de Schumpeter, et ça permettrait d'accélérer la croissance. Est-ce que c'est un exemple qui nous montre que l'investissement dans l'éducation, l'innovation accélère la croissance?
Alors là, effectivement, on fait appel à la notion de technologie, par exemple, pour expliquer une accélération de la croissance. Et pour, par exemple, à l'époque de Solo, où on observe une accélération de la croissance et de la croissance par tête, donc qui, effectivement, n'est pas compatible avec cette idée sur laquelle la croissance est uniquement expliquée par une augmentation du stock de capital et de travail. Donc on observe que la croissance augmente plus vite que l'augmentation du stock. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qui rend finalement le capital et le travail plus efficaces. Et d'une certaine manière, le capital humain et la technologie se sont combinés pour rendre le capital et le travail plus efficaces. Parce que le capital humain, lorsqu'il augmente, lorsqu'il s'améliore, ça permet effectivement d'innover, ça permet de créer de la nouveauté. Donc, par exemple, de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies vont rendre le capital physique, le stock de capital physique existant, plus efficace, plus productif, et vont permettre aussi d'apporter un nouveau capital physique plus performant.
Favoriser l'enseignement supérieur européen pour accélérer la croissance, c'était l'objectif du processus de Bologne à la fin des années 90. Alors quel bilan est-ce qu'on peut en tirer plus de 20 ans plus tard? Je vous propose d'écouter l'analyse de l'historien allemand Thomas Merkel.
Le processus de Bologne a instauré le concept d'employabilité. Il s'agit d'une approche extrêmement utilitariste de la formation universitaire. Pour ma part, je la considère comme totalement dépassée. Le monde professionnel et les métiers eux-mêmes évoluent si vite que nos formations n'arriveront jamais à coller à ces besoins spécifiques. Beaucoup d'entreprises, en particulier dans le domaine technique, ont déjà mis en place des formations complémentaires, adaptées à leurs besoins et destinées aux jeunes diplômés. Et ça, je pense que c'est la bonne solution. Jamais l'université ne sera capable de profiler les étudiants selon les critères des entreprises, que ce soit en sciences humaines ou en ingénierie. La notion d'employabilité est une aberration, car en plus de nuire à la qualité de l'enseignement, elle n'apporte rien aux étudiants.
Özgürgün, que vous inspire cette notion d'employabilité que dénonce ici Thomas Merkel?
À peu près la même réaction que dans l'extrait. Moi, ce que ça m'inspire, c'est cette espèce de charge assez ahurissante qui fait peser la question du chômage, hein, et la question aussi de sa place dans la société sur l'individu. Donc le problème, ce n'est pas tellement qu'il n'y ait pas d'emploi, parce que les entreprises, par exemple, n'auraient pas assez de commandes, n'auraient pas de perspectives suffisantes en termes de débouchés solvables étant donné leur exigence de profit. Ce ne serait pas le problème. Le problème, c'est l'employabilité. Faut être employable. Faut se conformer à l'idée qu'on se fait des besoins des entreprises. Alors que, je sais pas, une entreprise peut être très très employable, mais si elle n'a pas besoin de vous parce qu'elle n'a pas de commande, elle ne vous embauchera pas, même si c'est pour vous payer à coup de bâton, elle ne vous embauchera pas.
Voilà. Alors ce serait quoi la solution? Ce serait au contraire de se tourner davantage vers l'entreprise et vers la formation en entreprise, comme le disait ici Thomas Merkel. Il y a eu une actualité récente avec le fait que le gouvernement incite les firmes à considérer la formation comme un investissement et non pas comme une dépense salariale. Ça va dans le bon sens, selon vous?
Ça peut aller dans le bon sens, en effet. Mais je voudrais rebondir sur ce que vient d'évoquer mon collègue, parce qu'effectivement, il y a un problème par rapport à cette vision des choses sur l'employabilité, notamment par rapport à l'incertitude. Parce que, l'hypothèse qui est sous-jacente, c'est que lorsqu'on parle d'employabilité, ça veut dire que l'on sait à 4, 5, 6 ans, un horizon moyen terme et plus long terme, quels vont être les emplois, les compétences recherchées par les firmes demain. Et c'est une hypothèse qui est très très forte, parce que quand on observe l'évolution des technologies, l'employabilité, c'est une notion qui est extrêmement mouvante, c'est une notion qui se déplace, les compétences dont on a besoin aujourd'hui, d'une certaine façon, on pourrait montrer que c'est plutôt ce qu'on appelle en franglais les soft skills, hein, les compétences, je dirais, humaines, les compétences relationnelles, communicationnelles, qui seront toujours recherchées. En revanche, les compétences, par exemple, techniques, peuvent devenir obsolète, justement parce que vous avez une innovation technologique qui va rendre obsolète une compétence qui a été accumulée. Donc le capital humain qu'un étudiant aura par exemple construit dans sa formation peut être remis en question et dévalorisé à mesure que de nouvelles technologies apparaissent.
J'en viens à ma question sur le rôle de l'entreprise.
Alors effectivement, les entreprises investissent sur le capital humain. Elles le faisaient, j'irais, véritablement s'en rendre compte avec la formation. L'idée de considérer la formation comme un investissement et non plus comme une simple dépense, à mon sens, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est quand on regarde l'effort de formation des entreprises, on s'aperçoit que finalement, c'est un effort qui est extrêmement dual. C'est-à-dire que les entreprises consacrent énormément de ressources à former les personnes qui sont déjà les mieux formées, qui sont déjà les plus qualifiées. On regarde l'allocation de l'effort de formation, et elles tentent à finalement très peu former, voire ne pas former du tout, les personnes les moins qualifiées.
Ce qui tend à creuser les inégalités au sein même de l'entreprise.
Exactement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une croissance de l'écart entre les mieux formés et les moins bien formés qui pose problème sur cette notion qui est contestable, mais l'employabilité, parce que c'est vrai que ce qui est certain, c'est qu'une personne qui n'a pas été formée durant son parcours professionnel, elle est licenciée, par exemple, cette personne aura beaucoup plus de peine à retrouver un emploi, dans son champ de compétences. Et c'est vrai que la politique de formation de l'entreprise est, à mon sens, critiquable, enfin, parce qu'elles ont tendance à former finalement les personnes, les collaborateurs dont elles pensent qu'elles vont retirer le maximum de profitabilité, et donc ce sont les personnes les mieux formées.
Et plus largement, si on cherche une preuve de la capacité des investissements dans le capital humain à permettre de relancer la croissance, d'accélérer la croissance, on peut se poser la question si les technologies ont vraiment joué ce rôle, parce que malgré les investissements dans l'éducation, malgré l'innovation, les innovations technologiques, on constate un ralentissement du taux de croissance annuel moyen et un ralentissement de la productivité depuis les années 60, Özgürgün.
Oui, mais encore une fois, je vais être rabat-joie, mais il n'y a pas de lien entre les dépenses en termes d'éducation, de formation et la productivité. C'est comme ça, c'est un fait têtu.
Joseph Stiglitz dit que c'est à cause des inégalités que cette croissance que l'on pouvait attendre n'arrive pas.
Oui, mais on vit dans une société de classe, pardon d'être aussi un peu grossier, de mettre les pieds dans le plat. Il y a des dominants, des dominés. Oui, en effet, l'employabilité est une manière de rendre responsable et de dénier le caractère de classe d'une société avec des dominants et des dominés, et mettre la charge de la responsabilité du destin social et économique des individus les moins bien lotis sur eux-mêmes, sur leur histoire, leur être là. Et même les soft skills, c'est intéressant. Je sais pas bien, je ne suis pas bien élevé, je parle mal, je ne suis pas assez docile, il faudrait être... Enfin bref, on peut y voir vraiment une forme d'injonction, une maltraitance collective. Moi, j'y vois une violence sociale inouïe.
Mais alors, pour le dire autrement, pour poser la question autrement, Joss Roussel, est-ce que les gains attendus des investissements dans l'éducation sont compensés en quelque sorte par la hausse des inégalités, de telle sorte qu'à la fin, on a une croissance qui est plutôt en train de ralentir?
Alors c'est vrai que aujourd'hui en tout cas c'est ce qu'on observe. Alors cela étant, sur le paradoxe de la productivité qu'a mis en avant Solow d'ailleurs, les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques de la productivité. C'était la phrase un petit peu lapidaire qu'il avait formulée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire effectivement au moment où il fait cette observation, à la fin des années 70, on a déjà investi énormément en informatique. On est au cœur de cette révolution de l'information qui démarre dans les années 60, et finalement l'économie américaine connaît des gains de productivité qui sont extrêmement médiocres, voire même des baisses de la productivité observées par, en tout cas telle qu'elle est mesurée, productivité du travail. Et c'est seulement, durant la période des années 90, qu'on observe, à partir de la fin des années 80 jusqu'à, la fin des années 90, une remontée des gains de productivité aux États-Unis. Alors, certains ont vu le fait que, par exemple, l'Internet est arrivé, et ce qui fait que l'informatique est devenue tout à coup communicante. On peut échanger les données, on peut communiquer avec les données avec une seule et même, technologie. Aujourd'hui, on a à nouveau une productivité, dans les pays les plus riches en tout cas, et même d'ailleurs dans les pays émergents comme la Chine, qui tend à retomber. Et donc, on peut vraiment se poser la question, pourquoi, alors même qu'on nous présente qu'il y a une explosion finalement de l'innovation une explosion des gains en termes de technologie,
pourquoi est-ce qu'on n'a aussi peu de croissance? Pourquoi ça ne se traduit pas dans la croissance et dans la productivité?
Moi, j'y vois deux possibilités. On a effectivement ce que vous évoquiez, c'est-à-dire une croissance qui est réelle, qui existe, mais qui est extrêmement mal répartie. c'est-à-dire une croissance des 1%, entre guillemets, ou au bénéfice des 1%, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui le montrent. Ou j'irais même empiriquement, quand on observe, par exemple, le Wall Street, mars 2009, c'est 6500 points. Aujourd'hui, c'est 28 000 points. Ça veut dire que, finalement, la croissance de richesse pour ceux qui investissent, ça a été phénoménal. On a quasiment multiplié par 4 son capital. Évidemment, c'est pas le cas pour les salaires durant la même période. Donc, on a ce phénomène, effectivement, du creusement des inégalités qui peut être un frein à la croissance. Et puis, par ailleurs, il y a certains, industriels qui mettent en avant que peut-être, finalement, il n'y a pas eu autant d'innovations. C'est-à-dire que les innovations sont concentrées dans les technologies de l'information. Et donc, on est un petit peu, si vous voulez, en quelque sorte, aveuglé par ce flux permanent de nouveautés au niveau des technologies de l'information.
Qui ne se répercute pas sur toute l'économie.
Parce que, par exemple, quand vous prenez l'industrie pharmaceutique dépense de plus en plus en recherche-développement et l'impact de cette recherche-développement est relativement médiocre. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de mettre sur le marché autant de molécules et, de, par exemple, de soigner autant de maladies qu'on ne prévoyait.
Vous avez parlé de creusement des inégalités. Ces inégalités sont aussi liées aux droits d'inscription extrêmement élevés des universités américaines.
En théorie, l'éducation supérieure est censée être un outil puissant pour aider les étudiants pauvres à accéder à un niveau de vie de classe moyenne. Avec l'augmentation continue de frais de scolarité, nous obligeons ces individus à emprunter davantage. Nous faisons aussi un mauvais travail à l'heure de choisir l'école. Nous reproduisons les inégalités du système d'éducation publique, de l'école maternelle à l'école primaire. Les enfants riches vont aux meilleures universités, contrairement aux étudiants pauvres.
Ben Miller, directeur chargé de la question de l'éducation supérieure au Centre pour le Progrès de l'Amérique. Qu'est-ce que cette notion de dette étudiante nous dit aux Gourgounes de l'injonction qui est faite aux individus de s'hypothéquer en quelque sorte pour garantir leur avenir?
Votre question est complexe, donc je pense pas y répondre directement. Mais alors, ce que je peux dire à cet égard, c'est que pour le système états-unien, en l'occurrence, il y a un marché de la dette étudiante. C'est-à-dire que mon collègue l'a signalé, les produits financiers, donc ces promesses de droits sur les revenus futurs, hein, c'est ça un produit financier, sont à l'heure actuelle une source de revenus pour pas mal d'acteurs, pas seulement les acteurs financiers, mais aussi les épargnants, hein, ce qu'on appelle, par abus de langage d'ailleurs, les investisseurs. Et à cet égard, il y a un besoin social qui est le financement des études, étant donné le système d'enseignement supérieur états-unien, qui nécessite des coûts privés élevés, hein, qui est pris en charge par les individus. Il y a un besoin social, et donc il y a de l'argent disponible, il y a de l'épargne, il y a des riches, en effet, et à cet égard, c'est une bonne idée que de placer son épargne sur ce type de produit financier qu'est la dette étudiante, après de la titriser éventuellement pour augmenter les gains des acteurs financiers. Et ça pose des problèmes de soutenabilité assez évidents, soutenables au sens où ces promesses de droits sur les revenus futurs que sont les titres financiers, en l'occurrence la dette des étudiants, ne sont viable que si un jour ou l'autre les revenus à venir sont là. Donc la croissance est là.
Or, il y a une incertitude absolue sur ce point.
Par définition, il y a une incertitude absolue, mais là, les perspectives sont quand même très très noires, hein, globalement. Et parce qu'il y a une augmentation des dettes privées à travers le monde. On retrouve des niveaux d'endettement privés mondiaux supérieurs à ceux qui prévalaient juste avant la crise dite des subprimes en 2007-2008.
Aujourd'hui, la dette étudiante, c'est 9% du PIB américain. Joss Roussel, qu'est-ce que vous en pensez, cette idée d'une dette qui serait un frein à la croissance?
Alors effectivement, c'est une dette considérable, 1700 milliards de dollars, 1,7 trillion de dollars. Elle a plus que doublé au cours des 10 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est relativement affolant de certaines façons. Donc je pense que ça pose un problème pour la croissance et ça met en avant justement la difficulté de faire un calcul coût-bénéfice en investissant dans l'éducation, puisque c'est ce qu'on doit faire quand on investit dans l'éducation. On augmente son capital humain. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons à mon sens. Il y a un facteur démographique qui est important, parce que c'est vrai que fondamentalement la croissance repose sur quand même un élément démographique. Les générations aujourd'hui qui sont très endettées sont des générations qui sont quand même un peu moins nombreuses que celles qui les ont précédées. Donc on a finalement, un facteur qui est, de ce point de vue, légèrement dépressif, entre guillemets, du point de vue de la croissance, parce qu'on a une population active qui tend à être à ralentir, même si elle peut être commencée par l'immigration, parce que c'est vrai qu'il y a des flux migratoires qui sont importants aux États-Unis qui permettent de maintenir une population active importante. Mais l'autre problème, évidemment, c'est que cette dette va ralentir les capacités de consommation et d'investissement immobilier, par exemple, de cette population. Cette population étudiante qui va à un moment donné sortir sur le marché du travail, va sortir sur le marché du travail avec une dette étudiante considérable, beaucoup plus importante que dans les décennies précédentes, et donc ça va freiner la capacité de ces personnes à finalement consommer, comme ont pu le faire leurs prédécesseurs, à pouvoir acheter par exemple des biens immobiliers qui par ailleurs sont devenus beaucoup plus chers que en dollars constants que les générations précédentes, et donc évidemment ça va en quelque sorte limiter les capacités de croissance futur, puisque cette génération est, entre guillemets, finalement comprimée par un fardeau de dettes dont n'avaient pas à souffrir les générations précédentes.
Özgürgün.
Au-delà des spécificités du système d'enseignement supérieur états-unien, basé sur le financement privé, encore une fois, majoritairement, ce qui fait que la dette va poser un problème, c'est son coût, mais en termes réels, je m'explique, la lutte acharné contre l'inflation, par exemple, à ce pouvoir magique d'écraser les débiteurs, quels qu'ils soient, privés comme publics, et de faire le bonheur des créanciers. En l'occurrence, le problème de la dette disparaît littéralement comme la neige au soleil, si on accepte collectivement une certaine inflation. Pas besoin de larmes et de sang ici. Mais c'est un coup politique, c'est qu'en effet, les épargnants y perdent.
Alors ça, c'est effectivement une question extrêmement compliquée qui est celle de l'inflation. Et je voudrais vous entendre aussi sur cette idée qu'on a vu que la dette étudiante était très importante aux États-Unis. Elle est très faible, en revanche, en France. Et pourtant, si on regarde selon le classement établi par la Banque mondiale qui évalue le développement de capital humain dans 130 pays, la France et les États-Unis sont quasiment à la même place, respectivement 22e place. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cela, Joss Roussel ?
C'est-à-dire que l'argent ne fait pas tout, d'une certaine manière, puisque je pense qu'il y a une réalité, effectivement, qui est que la dépense, l'effort, entre guillemets, d'investissement qui est fait en éducation est supérieur aux États-Unis, et finalement, les résultats ne sont pas, si vous voulez, au rendez-vous. Et alors, peut-être parce que, justement, il y a une mauvaise allocation des ressources, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le système tel qu'il fonctionne, notamment avec cette inflation de la dette étudiante, a entraîné, en fait, c'est un système pervers, où la dette étudiante est rendue extrêmement, je dirais, accessible. Il est très facile pour les étudiants américains d'emprunter de l'argent. Et cette abondance de crédit facile à obtenir incite les universités à augmenter leurs frais de scolarité. Parce que c'est ça aussi qui est un phénomène assez exceptionnel, c'est que sur les 15 dernières années, les frais de scolarité aux États-Unis, que ce soit pour les universités privées, donc mais aussi pour les universités publiques qui sont en partie financées par les États américains, eh bien ces frais de scolarité ont augmenté beaucoup plus vite que l'inflation, 2 à 3 fois plus vite que l'inflation. Et donc là, c'est finalement un phénomène très très gênant, c'est-à-dire qu'on a une éducation qui est de plus en plus chère et de moins en moins efficace. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette statistique. Finalement, en subventionnant par la dette l'enseignement supérieur, par ce biais, par ce mécanisme, en rendant le crédit extrêmement accessible, on a finalement donné de très mauvaises incitations aux institutions d'enseignement supérieur pour augmenter leurs tarifs plus que de raison.
Et il y aurait sans doute toute une réflexion à mener pour autour de ce système éducatif, comment faire en sorte qu'il soit mieux adapté au système économique, à l'heure où l'économie connaît des évolutions extrêmement rapides. On sera amené à en reparler. Un grand merci à tous les deux. Et tout de suite, on retrouve Xavier Martinet et le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que l'Assemblée a débuté l'interminable examen du projet de réforme des retraites et ses plus de 12 000 amendements, les économistes s'interrogent sur l'étude d'impact et sur le sens de la réforme.
Oui, vous vous rappelez que le Conseil d'État la semaine dernière l'avait jugé lacunaire, cette étude d'impact, confirmation par l'un des économistes à l'origine de la réforme, Antoine Bozio, dans Le Monde. Si l'on exclut les cas types et la présentation du système actuel, l'étude d'impact proprement dite ne représente que 93 pages sur les 1024 de ce texte. Seule certitude pour tous les économistes, c'est la baisse du niveau des retraites par rapport au PIB, mais beaucoup trop d'inconnues importantes encore, comme par exemple le rythme de la croissance dans cette étude qui est fixé dans les projections à 1,3%. Subsistent donc les interrogations quant à l'équité du futur système et surtout le sens de la réforme, réforme de progrès, qui doit aussi commencer par exonérer les professions qu'elle pénaliserait, demande ainsi Jean-François Fitoussi, pour l'économie économiste et maître de conférences à Paris, un Michaël Zemmour. En tout cas, l'étude est effectivement lacunaire. Et puis surtout, le nouveau système a un sens comptable bien précis. C'est une variable d'ajustement des finances publiques, soutient-il. Écoutez-le.
Le sens général de la réforme, quand on regarde les autres pays européens, c'est d'accompagner la baisse du niveau des pensions publiques et de l'organiser. Ça, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Suède, c'est-à-dire de transformer le système de retraite français en un système où on vide sa retraite et uniquement de sa retraite, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart des retraités, en un système qui soit un premier étage et qu'il faut compléter, si on en a les moyens, par une retraite supplémentaire par capitalisation ou par une stratégie de patrimoine quelconque. Et l'article 1 de la loi organique sur les retraites, donc une loi importante, supérieure aux autres lois, c'est de dire que le système ne peut plus jamais être en déficit. En soi, on peut penser que c'est une bonne idée, mais c'est un changement de logique par rapport à la sécurité sociale. Dans ce cadre-là, on n'a jamais de déficit, mais par contre, ce sont les pensions qui jouent le rôle de variable d'ajustement. Donc s'il y a un choc démographique ou même un choc, une crise, ça se retranscrit immédiatement sur le niveau des pensions. C'est une vision d'une retraite dégradée par rapport à la situation actuelle. La bonne image de ça, on l'a aujourd'hui avec l'assurance santé. On a voulu maîtriser les dépenses de santé publique avec la sécurité sociale. Et du coup, on a rendu indispensable et même obligatoire les complémentaires privés. C'est un petit peu ce qui nous attend avec le système de retraite si on suit le chemin qui est tracé.
Impossible de trancher encore sur les gagnants et perdants de la réforme, ni sur son sens, Xavier.
Oui, sur les gagnants et les perdants. Eh bien, si les moyens restent constants, comment la solidarité pourrait-elle être plus forte? C'est une des questions. Sur certains aspects, c'est vrai qu'elle paraît lisser les inégalités, en instaurant par exemple une pension minimum. Ainsi, les précaires aux carrières trouées pourraient être mieux traités, disent trois économistes dans Le Monde, en se fondant justement sur ces fameux cas types fournis par le gouvernement. Au contraire, elle serait moins juste, disent d'autres, le nouveau système renforcerait les inégalités de naissance. C'est ce que dit encore l'économiste Jean-Paul Fitoussi, qui parle d'un désordre intellectuel à l'origine de la réforme. Cela dépend donc de quel point de vue, à quel niveau on se place et à quel aspect on s'attache. Le reste du débat, en tout cas politique, à l'Assemblée, examen public toujours prévu le 17 février.
On passe au bref. Le Sénat, quant à lui, vient d'adopter un texte sur un service minimum garanti dans les transports et il pousse le gouvernement à se positionner.
Oui, proposition à l'initiative des sénateurs républicains majoritaires pour tenir compte de l'exaspération, disent-ils, des citoyens et pour compléter la loi de 2007 qui, elle, ne garantit pas effectivement le service minimum. Le texte prévoit d'assigner aux collectivités la mission de fixer le seuil minimal de transport souhaité, d'obliger les entreprises à réquisitionner leurs grévistes et de limiter la possibilité de grève courte de moins d'une journée. Peu de chances que sa vie se poursuive, a averti le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari en évoquant une possible censure du Conseil constitutionnel. Alors, coup politique ou pas, le gouvernement est en tout cas mis au pied du mur et annonce une mission sur le sujet.
Et enfin, on l'évoquait hier ici même, les événements se précipitent autour de la direction du groupe Engie. Le Conseil d'administration est avancé à demain.
Oui, très rapidement, Conseil d'administration concernant l'avenir de la directrice Isabelle Koecher et du groupe, avec une crise devenue publique en début de semaine. Ce matin, l'un de ses soutiens, le vert Yannick Jadot, accusait ouvertement le ministre Bruno Le Maire de déstabiliser le groupe et de vouloir le découper en tranches. C'est l'hypothèse dont on parlait hier, qui serait donc la plus probable, l'éviction d'Isabelle Koecher pour réorganiser le groupe, augmenter peut-être la rentabilité du titre. Prudent hier, en tout cas, Bruno Le Maire a assuré que les critères de décision seraient uniquement économiques, ce qui n'est pas incompatible.
Merci Xavier, et à demain. On se quitte avec Polissa et son titre Driving. Merci beaucoup Osgur Gün et Joss Roussel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alain de Recours, à la réalisation Christine Robert, à la technique aujourd'hui Sylvain Latu. Vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.